Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Bonjour à tous et tous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue pour notre émission Le Guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes. Pour cette émission, nous allons vous diffuser deux tables rondes qui sont issues d'une rencontre organisée le 15 mars par Envita à l'auditorium du Musée d'Aquitaine de Bordeaux. Envita signifie Association nationale des villes et territoires accueillants. Créée le 26 septembre 2018 par 9 villes fondatrices, Envita rassemble des collectivités territoriales, des groupements de collectivités, mais aussi des élus, qui œuvrent pour les politiques d'accueil inconditionnelles, incluant les publics exilés, et surtout pour l'hospitalité sur leur territoire. Envita regroupe plus de 80 collectivités territoriales et Bordeaux, la mairie de Bordeaux, assure désormais la vice-présidence de Envita. C'est un espace de mobilisation politique. Envita met en place une stratégie de plaidoyer commune pour défendre l'accueil digne sur nos territoires et une meilleure participation des collectivités territoriales aux politiques nationales sur l'accueil. Et c'est dans ce cadre de construire des discours humanistes et politiques communs que la ville de Bordeaux, qui assure désormais la vice-présidence de l'association, a co-organisé avec Envita une journée de rencontre le 15 mars à Bordeaux. C'était la première édition des territoires accueillants du Grand Ouest. La journée s'est organisée en deux temps. Une matinée qui était destinée à l'échange entre les élus et les agents, qui portait sur « personnes sans papier, habitant nos territoires au droit incomplet ». Ces échanges ont été suivis d'une conférence de presse, où les représentants du territoire ont alerté sur la détérioration des conditions de vie et d'accueil des personnes exilées sur leur territoire. Un communiqué de presse des 18 territoires que vous trouverez dans l'article de ces podcasts sur le site de la Clé des Ondes. L'après-midi est organisée une visite au musée d'Aquitaine, suivie de deux tables rondes au sein de l'auditorium du musée. Le maire Pierre Urmic a introduit les échanges. La première rencontre était modérée par Sandra Merlet, moi-même, en tant que consultante historique et surtout représentante du guide du Bordeaux colonial. Et j'ai eu le plaisir donc de modérer une table ronde qui portait sur l'histoire des migrations et son impact sur les villes d'aujourd'hui. Puis, la seconde rencontre a porté sur les façons dont l'action sociale se confronte à la complexité du droit des étrangers, et cette table était modérée par Madame Catherine Gauthier, professeure en droit public et vice-présidente de l'Université de Bordeaux. Et pour finaliser cette journée d'échange, le collectif Anticra a pu intervenir pour dénoncer l'installation d'un nouveau centre de rétention administratif à Mérignac, et je partagerai également dans les articles de ces deux podcasts le lien pour suivre les causes-actions du collectif Anticra. Et donc c'est une émission du Guide du Bordeaux colonial en deux temps, un peu spéciale, car nous allons diffuser de manière intégrale les deux tables rondes organisées par Envita, dans le cadre de la journée qui s'appelait, je rappelle, Territoire accueillant du Grand Ouest, et co-organisée par la mairie de Bordeaux. Ces deux échanges, nous allons les diffuser en direct, mais vous pourrez aussi bien sûr les retrouver sur la plateforme de podcast laclédesondes.fr. Donc, cette rencontre territoire accueillant du Grand Ouest organisée par Envita et la mairie de Bordeaux était bien sûr une rencontre auquel le guide du Bordeaux colonial était présent, mais aussi surtout intervenant. Je vous souhaite une très bonne écoute de ces deux tables rondes organisées par Envita à Bordeaux le 15 mars.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes.
Première table ronde, comment l'histoire des migrations façonne nos villes d'aujourd'hui. Pour ce premier échange organisé par la ville de Bordeaux et Envita, était invité Monsieur Alounsi, président du COSIM Nouvelle-Aquitaine et fondateur de ACAFI, Madame Marie Vitou, adjointe à la maire de Nantes en charge de l'ESS et de la mixité-diversité dans l'emploi, Monsieur Yann Leformal, président du RAMI, et également Bénédicte Méchalon, géographe au CNRS à l'Institut Convergence Migration. Donc cette première table ronde portant sur l'histoire des migrations et son impact dans le façonnement des villes d'aujourd'hui était donc modérée par Sandra Merlet, consultante historique, médiatrice culturelle et co-autrice du Guide du Bordeaux colonial.
À tous et à toutes, je suis Harmonie Le Cerf-Meunier, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors. Et la ville de Bordeaux a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui les journées Grand Ouest de l'Envita, Association nationale des territoires et villes accueillantes, qui est une association qui regroupe des élus et des collectivités. Donc on reçoit toute la partie Ouest pour discuter des questions de migration, d'accueil des personnes migrantes, d'accès aux droits des personnes migrantes. Donc nous avons travaillé ensemble ce matin avec les collectivités, les élus, et les techniciens et techniciennes, et nous avons donné une conférence de presse lançant une alerte au gouvernement sur l'aggravation des situations des personnes migrantes sur nos territoires et leurs difficultés d'accès aux droits. S'en suivra une lettre au gouvernement qui reprendra un peu tout ce que nous pouvons voir et ce que nous gérons au quotidien dans nos collectivités. Donc nous allons passer cet après-midi sur les tables rondes, et je vous remercie d'être ici pour deux tables rondes sur deux thématiques différentes, une sur les questions mémorielles et une sur les questions d'accompagnement social des personnes migrantes. Un grand merci aussi aux équipes de Landvita, cette association à laquelle nous avons adhéré depuis 2021 et de laquelle nous sommes très heureux à Bordeaux d'être vice-président. Merci donc aux co-directrices et aux chargés de mission d'avoir préparé cette journée avec les services de la ville de Bordeaux et du cabinet du maire de Bordeaux. Le maire va nous rejoindre pour dire un mot, mais c'est un petit peu décalé. Ce matin, il y avait l'élection de la nouvelle présidente de la métropole suite à la démission du président de la métropole. Donc il y a eu un conseil métropolitain qui a été calé en urgence pour aujourd'hui, ce qui fait qu'il est un petit peu en retard par rapport au planning.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux et nombreuses cet après-midi pour les deux tables rondes. Comme vous avez pu le voir, à l'entrée, on a une petite feuille d'émargement. Donc n'hésitez pas à aller mettre vos noms, prénoms, si vous voulez être recontacté, avoir toutes les informations de la journée, notamment les comptes rendus des échanges. Et également, nous avons le plaisir de pouvoir être enregistrés sur la clé des ondes. Donc voilà, il y a aussi également la question de bien donner votre accord pour le droit à l'image et au son. Également, du coup, cet après-midi, on a un public qui est très varié, très de différents profils. Donc, on voulait un petit peu vous proposer de jouer le jeu de l'exercice, de dire un petit peu d'où vous êtes. Et donc, en levant la main, qu'on puisse repérer visuellement où sont les collectivités, si les collectivités, agents et élus, veulent bien lever la main. Super. Alors, on a aussi des parlementaires qui sont avec nous. Un petit peu moins nombreux, mais vous êtes là devant. Les temps de l'après-midi ont aussi beaucoup circulé dans les réseaux associatifs du coup de Bordeaux, et on est très ravis que vous soyez là cet après-midi. Si du coup les associations et acteurs de la société civile veulent bien également lever la main. Génial. Et du coup, éventuellement, s'il y a d'autres personnes, des citoyens curieux ou intéressés par la thématique, c'est aussi possible. Mais je pense que vous êtes beaucoup d'associations. Et également, oui, le monde de la recherche, on a plusieurs chercheurs et chercheuses qui sont au fond de la salle. Super, merci. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer la première table ronde qui, comme le disait donc Harmonie, sera sur les enjeux mémoriels. Comment l'histoire des migrations façonne nos villes d'aujourd'hui. Et donc, j'appelle nos intervenants et notre modératrice à nous rejoindre.
Alors bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc je voulais tout d'abord remercier Envita et la municipalité de Bordeaux d'organiser cette journée de rencontre ici à l'auditorium du musée d'Aquitaine sur cette thématique des territoires accueillants qui vont se concentrer pour cette première partie sur les héritages des migrations dans l'Ouest. Et donc notre première table ronde va porter sur comment l'histoire des migrations va façonner nos villes d'aujourd'hui. Dans ce cadre, je voulais donc remercier les quatre intervenants d'avoir accepté cette invitation pour échanger sur les questions de l'histoire des immigrations et de son héritage. Tout d'abord, Madame Marie Vitou, donc vous êtes écologiste à Nantes. Vous êtes adjointe à la mairie de Nantes en charge de l'économie sociale et solidaire, et vous êtes également adjointe du quartier de Nantes-Sud. Madame Vitou, vous êtes militante et vous avez des engagements, notamment sur le sujet du droit au logement, de l'accueil inconditionnel. Et vous mentionnez être mobilisée dans le cadre d'un collectif qui s'oppose à l'installation d'un centre de rétention administrative à Nantes. À ma droite, donc, j'ai Madame Bénédicte Michalon. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au laboratoire Passage situé à Pessac. Vous êtes également géographe, spécialiste de l'étude des migrations et de l'enfermement des étrangers. Et votre spécialisation est l'accueil des exilés en milieu rural et aussi l'impact des politiques migratoires sur les cheminots. Et il y a également Monsieur Yann Leformal, donc vous êtes président du RAMI, qui est le réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration, et vous assurez des formations laïcité et valeurs de la République dans le cadre du dispositif CEGET. Monsieur Leformal, vous êtes également auparavant directeur régional du FACILD et de l'accès. Et enfin, à ma gauche, tout à ma gauche, monsieur Alioumsi. Donc vous êtes militant associatif, universitaire, et également président du COSIM Nouvelle-Aquitaine, qui est un collectif fondé en 2012, qui réunit une centaine d'organisations de solidarité internationale issues des migrations et des diasporas solidaires. Et monsieur Si, vous êtes aussi président de l'ACAFI Aquitaine Afrique Initiative, qui est une association pilotant plusieurs projets locaux et internationaux au service du développement et du dialogue interculturel. Tous les quatre, vous avez tous des profils divers, vous avez des parcours qui s'impliquent dans quatre réalités et territoires différents, tels que la ville de Nantes et sa métropole, Bordeaux et le Sud-Ouest, l'espace rural, mais aussi les diasporas africaines, notamment dans le milieu étudiant. Pour faire une courte introduction, j'ai oublié de me présenter, donc moi-même je suis salariée à l'association ALIF, qui est une association d'accès aux droits des étrangers, je fais le contrat d'intégration républicain, mais je suis modératrice ici en tant que membre du collectif du Guide du Bordeaux colonial et aussi de la Clé des Ondes, et c'est dans cette spécialisation sur les questions mémorielles dans l'espace public que je vais intervenir aujourd'hui. Et donc je suis heureuse qu'avec Envita, il y ait mon travail salarié d'intégration des personnes migrantes et aussi mon travail plus militant sur la question mémorielle qui se rejoignent. Et donc, pour introduire rapidement, je voulais définir tout d'abord le terme de migration, car c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui semble flou, parce qu'il regroupe en fait beaucoup de réalités différentes, et la réalité politique a fortement évolué, notamment depuis une dizaine d'années, sur la question des migrations. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un migrant ? Migrant, c'est un terme qui n'est pas réellement défini dans le droit international, dont finalement ça va désigner toute personne qui quitte son lieu de résidence pour aller s'établir de manière temporaire ou permanente dans une autre région à l'intérieur d'un même pays ou dans un autre pays. Donc on pourrait dire que moi-même, alors je suis une migrante, parce que je suis originaire du Maine-et-Loire et je me suis installée ici en Aquitaine. Je pense que dans le cadre de cet échange, nous allons surtout nous centrer sur la question des immigrations, qui là est définie par le Haut Conseil à l'intégration comme étant des personnes nées étrangères dans un pays étranger et résidant en France. Cette définition est une bascule faite dans les années 1980, car elle va mettre l'importance sur la question de l'origine et non pas du statut juridique. Or, cette question des origines, de la nationalité, n'est pas une réalité fondamentale jusqu'à la Troisième République et notamment jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, l'État, vu ici comme une institution administrative, va s'attacher à ranger, à définir les catégories des personnes, des individus sur son territoire. Il faut comprendre que l'opposition entre nationaux et étrangers est très récente dans la pensée politique, et la notion même d'appartenance à un État, à une nation, est également récente, va surtout démarrer à la fin du XIXe siècle. Pour un peu définir l'histoire des migrations, je vais prendre l'exemple de Bordeaux, mais également la ville de Nantes peut ressembler pour son caractère portuaire maritime, car Bordeaux, avec son activité coloniale qui va s'accentuer au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe et au XXe siècle, va devenir un réel bassin de migration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité portuaire, l'activité coloniale, ne concentre pas que les villes, mais concentre finalement tout l'arrière-pays, où en fait toute l'économie de l'arrière-pays va prendre place pour développer l'activité coloniale, mais aussi vous allez avoir les premières grandes migrations régionales, finalement des petites mains, qui venaient travailler dans les industries portuaires, mais aussi dans les métiers du service. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution française, on ne s'identifiait pas de manière nationale, mais on va s'identifier vis-à-vis de sa région. On est du Poitou, on est de l'Aquitaine, on est basque, mais on ne fait pas partie de la nation française. Et c'est là le basculement majeur de la Révolution française, c'est qu'elle va inaugurer le siècle des États-nations, l'État-nation fondé sur la souveraineté du peuple, et donc qui va créer le clivage fondamental entre le national et l'étranger. L'État-nation, c'est un nouveau concept politique qui sera surtout accéléré à la Troisième République, qui définit que dans un même État, il y a un même peuple, donc on efface un petit peu les particularismes régionaux. Vous avez une même langue, ça sera l'importance de l'école dite républicaine pour mettre en place le français. Vous allez avoir aussi une même histoire, donc c'est la fondation des grands mythes nationaux qui seront aussi diffusés par les écoles. Et aussi, c'est là qu'arrive la question de la frontière. Une même frontière, qu'elle est géographique ou politique, qui va définir du coup la création de l'autre, qui va définir l'étranger. Et le second basculement majeur au XIXe siècle est bien sûr la révolution industrielle, qui va s'accompagner de progrès techniques, notamment dans les mobilités, mais aussi un fort besoin de main-d'œuvre, car les grandes usines vont donc appeler des migrations européennes dans un premier temps à venir travailler dans les industries françaises. Car la France, et c'est une de ses particularités, est une terre d'émigration. On a besoin de main-d'œuvre pour faire participer l'économie. Donc cette première immigration sera surtout européenne, notamment italienne, espagnole, portugaise, polonaise, allemande, russe. Et il faut bien comprendre qu'on ne les lit pas selon leur nationalité, mais selon leur classe. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, tout était rangé en classe sociale, la classe politique, la classe laborieuse, la classe des élites. Et c'était normal d'avoir un internationalisme au niveau de ces classes. C'était pas du tout les nationalités qui définissaient les étrangers. Et le basculement, ça va être l'institutionnalisation de la Troisième République, ce qui est dans un contexte d'hypernationalisme, notamment contre l'Allemagne, mais aussi une montée réelle de l'antisémitisme, des courants xénophobes, des sciences telles que le darwinisme social, de la racialisation et de l'ethnisation de la société. Et donc, en 1889, va être mis en place le premier code de la nationalité pour déterminer la question de la naturalisation des enfants nés en France de parents étrangers. Pourquoi on a voulu naturaliser? C'est qu'il y avait tout d'abord la question du service militaire, donc qui entraînait une concurrence entre les ouvriers français et les ouvriers étrangers qui n'étaient pas appelés sous les drapeaux. Mais il y avait aussi la question sociale et le début de la méfiance de l'étranger dans un contexte de guerre qui s'annonçait au début du XXe siècle. Et de plus, l'administration et la bureaucratisation de la Troisième République va mettre en place les premiers taxes de séjour, puis les cartes de séjour et finalement les premiers titres de séjour à l'aube du XXe siècle. Et donc, on peut voir que trois dynamiques vont se créer à l'aube du XXe siècle dans lesquelles on peut toujours se reconnaître et qui ont un impact profond sur l'organisation de l'État et les perceptions de ceux qu'on appelle désormais les immigrés. Tout d'abord, une interdépendance entre les États et donc une intensification des relations internationales avec aussi une montée des risques de conflit. Donc, cette montée de conflit va être justifiée pour recenser les étrangers et donc aussi créer une forme de méfiance. Par l'administration, on va créer donc une légalité qui, en conséquence, va former une possible illégalité. C'est là que va arriver la création de l'immigration clandestine, mais aussi la différence entre les bons et les mauvais étrangers, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Et enfin, selon l'État, va arriver aussi la question de l'accentuation de la demande sociale, avec en temps de crise des demandes de fermeture des marchés du travail, et donc réduire le droit des étrangers à être utilisé au début du XXe siècle comme une tactique payante au niveau électoral. Et donc, on peut voir que, par l'évolution administrative et institutionnelle du statut des étrangers, mais aussi de la perception du national et du non-national, ceci se heurte à une vision plus humaniste de l'importance de la migration dans le façonnement des territoires urbains et ruraux, car les migrants, qu'ils soient régionaux, européens ou internationaux, ont contribué à la fondation de nos espaces d'aujourd'hui, des espaces géographiques, culturels et patrimoniaux. Et donc ce sera la première table ronde de cet après-midi. Et donc ma question aux intervenants, c'est comment, à partir du XXe siècle, les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, mais également l'organisation des diasporas, ont-ils été modifiés, créés par les différentes migrations ?
Ouais, je vais commencer parce que c'est très simple, effectivement, 5 minutes de résumer l'histoire de l'immigration au XXe siècle dans l'Ouest. Donc ça, je m'en occupe. Non, la difficulté qu'on a avec, la conviction que l'on a en tout cas au RAMI, c'est que l'histoire de l'immigration, c'est d'abord l'histoire de France, d'accord ? C'est l'histoire de France, c'est aussi l'histoire de l'Europe, c'est aussi l'histoire du monde. Et c'est à partir de là qu'on peut essayer de construire quelque chose de l'ordre d'une périodisation de ces migrations durant le XXe siècle. Alors c'est résumé, bien évidemment, mais enfin bon, l'histoire de l'Europe, par exemple, c'est l'histoire de la montée des fascismes, notamment en Allemagne, bien évidemment, mais aussi dans l'Europe des Suds. Et au final, quand on regarde ce qui se passe en matière d'immigration, notamment dans l'Ouest, c'est à partir des crises créées par cette montée du fascisme qu'on commence à avoir les immigrations les plus importantes. Notamment dans les années 20, l'immigration italienne, hein, qui va être plutôt 20-30, qui va être plutôt rurale pour le coup, mais ça, Bénédicte Michalon en parlera probablement bien mieux que moi. Et ensuite, on a le fascisme espagnol, le franquisme espagnol, qui va donner lieu, bien évidemment, à la guerre à la défaite et donc à l'immigration espagnole issue de la retirada, c'est-à-dire le départ des Espagnols. On a dans les années, je crois que c'est fin des années 30, 39, on a 450 à 500 000 Espagnols qui passent la frontière, qui viennent s'installer dans le sud notamment à Toulouse, mais aussi beaucoup beaucoup sur le Grand Sud-Ouest et beaucoup à Bordeaux. Quand on parle de comment l'immigration façonne nos villes, on a déjà, avec cette installation des Espagnols à Bordeaux, une première concentration en centre-ville du côté de la place Saint-Michel. Alors, pas seulement là, hein, mais enfin, c'est là qu'on commence à avoir le premier ancrage, finalement, de cette immigration dans la ville, un ancrage qu'on retrouve encore aujourd'hui. Pour continuer sur l'histoire de l'Europe et des fascismes, on a eu aussi ensuite l'immigration s'est faite plus tardivement, mais enfin on a eu aussi le fascisme portugais qui a pesé notamment en termes d'immigration, notamment au début des années 60. Quand beaucoup de Portugais ont voulu échapper à la conscription, aux guerres coloniales en Angola et au Mozambique. Donc, dans ces années-là qu'on commence à avoir une immigration portugaise qui est donc d'ordre politique, j'allais dire, ou du moins qui est liée à la situation politique très critique du Portugal. On a aussi des raisons économiques. Donc là aussi, une immigration très très forte qui vient compléter l'immigration espagnole, qui s'installe également à Saint-Michel, qui marque également notamment le quartier Saint-Michel. Je résume, hein, bien évidemment, parce que les Portugais ne sont pas seulement à Saint-Michel, ils sont partout aujourd'hui, et voilà. Mais on a ces premières vagues migratoires qui sont quand même très développées et qui sont beaucoup plus développées que les immigrations des Suds qu'on va avoir dans d'autres zones de France, à Marseille, dans le Nord, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans une région qui n'est pas marquée par une industrialisation très très forte. Hein. Donc des besoins de main-d'œuvre sont très importants, mais notamment dans l'agriculture, et finalement assez peu dans les industries. Une fois qu'on a dit ça, donc l'histoire de France et l'histoire du monde au XXe siècle, c'est l'histoire du développement des empires coloniaux, qui existent déjà hein, depuis... sans évoquer la façon dont la traite négrière a façonné, pour le coup, la ville de Bordeaux. Si on parle de ce qui a façonné la ville, on est là sur un phénomène, sur une histoire qui a bien évidemment... Et les salles du musée d'Aquitaine le retracent très bien. C'est une période qui a vraiment façonné cette ville. Le développement des empires coloniaux au XXe siècle se poursuit et au moment où ça s'arrête, c'est-à-dire après-guerre, on a bien évidemment du côté de l'Indochine, de l'Algérie, etc., on a des crises et on a une immigration qui commence là aussi, qui est d'origine politique mais aussi économique, qui commence à venir à Bordeaux, enfin dans le sud-ouest, qui commence à se développer, mais encore une fois de façon moins forte que les immigrations européennes, hein, par rapport encore une fois à d'autres sites comme la région parisienne, marseillaise ou le Nord. Hein. Ça ne veut pas dire que ces immigrations des Suds n'étaient pas présentes avant. Peut-être que Alounsi en parlera, mais enfin, on a, entre les deux guerres, on a une présence africaine qui est relativement importante à Bordeaux, mais notamment en termes, estudiantins. On a aussi toutes les troupes coloniales dans lesquelles les Sénégalais, mais pas seulement, hein, on parle, quand on parle des tirailleurs sénégalais, ce sont les tirailleurs de plusieurs pays, hein, d'Afrique subsaharienne. On a tous ces gens qui ont participé à la guerre, dont un certain nombre sont restés, certains ont fait souche, très peu finalement, mais enfin il y a quand même une présence. Il y a une présence chinoise également, puisque eux aussi étaient mobilisés en 14-18. Ce sont des gens qu'on revoit en 39-45, parce qu'on va les rechercher, bien sûr, pour aller faire la guerre. Pas seulement la guerre, mais aussi pour les infrastructures, etc. Enfin, voilà, on a ces immigrations qui sont présentes, mais qui ne sont pas des immigrations massives au sens de travailleurs. C'est ensuite, dans les années 60 et 70, que cette immigration immigration qui est une immigration de travail, et donc notamment masculine, qu'elle s'installe. C'est dans les années suivantes qu'elle devient familiale et qu'elle commence à numériquement avoir une importance, notamment sur Bordeaux. Et là, bon, si on parle de comment ça façonne nos villes, on a bien sûr des espaces spécifiques, on a quelques bidonvilles, mais encore une fois, beaucoup moins qu'à Paris. Je veux dire, les Portugais à Paris, c'est le bidonville de Champigny. C'est, enfin voilà, on a tout un tas de phénomènes comme ça qu'on a peut-être un peu moins sur notre région. C'est aussi des espaces, c'est aussi du parc privé. J'allais dire limite insalubre, non, du parc privé insalubre, hein, ce qui est le cas aussi en rural. Donc les gens s'installent comme ça avant le développement des HLM. Et là, c'est avec la création des HLM, on a une géographie, je dirais, des migrations qui commence à se mettre en place à Bordeaux comme dans les autres villes, qui n'est pas forcément une géographie de l'immigration seulement, c'est une géographie de la précarité, mais dans la mesure où les migrants sont précaires, on a cette situation qui se développe pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui, avec une présence forte des migrants, mais surtout des gens issus de l'immigration qui sont pour le coup qui ont connu une situation de quasi-assignation à résidence qui fait qu'aujourd'hui ça marque encore notre ville. Je m'aperçois que je parle trop.
Non, je pense qu'on va annoncer le discours du maire. On va faire une petite pause.
Ah ben oui, monsieur le maire, bien sûr. Alors là, ça...
Merci, je vous rassure, ça ne sera pas un discours. Hein. Ça sera... Non. Juste quelques mots d'accueil sur le pâté. D'abord, pour m'excuser de ne pas être venu plus tôt, mais j'ai une journée assez bien gardée, et puis surtout, on avait un conseil de Bordeaux Métropole important aujourd'hui, ce qui fait que je n'ai pas pu venir plus tôt, mais je sais que j'étais bien représenté, notamment par Harmonie Le Cerf Meunier, qui est notre excellente adjointe aux solidarités. Ça me donne l'occasion de remercier l'Envita, pour son dynamisme, pour l'organisation. Je remercie les équipes de l'Envita pour l'organisation de cette journée, pour son dynamisme. J'ai appris qu'il y avait de nouveaux membres aussi que je veux saluer. Je crois qu'il y a la commune de Saliès dans le Tarn, la commune d'Andaille au Pays Basque. Hein, commune d'Andaille au Pays Basque, ça se salue particulièrement, excusez ce tropisme. Et la troisième collectivité, c'est Bourges. La commune de Bourges, voilà. C'est très bien, je vous remercie. Ce qui ne fait qu'accentuer, à mon avis, le fait que l'une des richesses, j'ai compris, de l'Envita, c'est la diversité des territoires, des expériences. Et je pense que chaque nouvelle adhésion est une source d'enrichissement de la structure. Et donc, je vous remercie pour ces adhésions. Je ne vais pas vous parler de Bordeaux, mais vous vous en doutez, nous sommes une collectivité, Harmonie a dû vous le dire, très mobilisée. Nous sommes d'autant plus mobilisés comme vous toutes et vous tous, que nous constatons l'aggravation de la situation, l'aggravation des précarités. Je vois que vous en parliez au moment où je suis arrivé, que la situation s'aggravant, plus que jamais, il nous faut être actifs, il nous faut être solidaires déjà entre nous et fonctionner en réseau, comme le fait l'Envita, c'est-à-dire échanger nos expériences de terrain. Et pour ça, nous avons, là, je parle au nom de tous les membres de l'Envita, besoin de ce réseau pour nous renforcer dans nos territoires. À Bordeaux, je pense que ça vous a été dit, nous avons eu récemment la troisième nuit de la solidarité, ce qui est quand même un très bel outil pour vraiment faire un diagnostic de ce qu'est la précarité, le sans-abrisme sur nos territoires municipaux. L'Harmonie s'est beaucoup investie pour que ces nuits de la solidarité aient lieu à Bordeaux. Déjà troisième édition, donc on affine au fur et à mesure des années la perspicacité du diagnostic. Mais c'est vrai que le diagnostic, c'est que la situation s'aggrave. Plus en plus d'enfants cette année. On a eu de plus en plus d'enfants à la rue ou dans les campements. Donc cela est effectivement très préoccupant et nécessite une mobilisation à chacune et chacun d'entre nous, en tout cas de chaque collectivité qui se sent concernée. Autre expérience bordelaise, je ne sais pas si vous en avez parlé, mercredi, on a lancé une campagne d'affichage contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est, ça date, vous en avez parlé. Donc c'est aussi, non, c'est aussi une façon voilà, d'être présent. Quand j'ai dit affichage, ce sont tous les affichages municipaux de co et qui sont mobilisés pendant quelques jours pour inciter à cette lutte nécessaire contre le racisme et l'antisémitisme. Bon voilà, je ne voulais pas être plus long, je voulais simplement vous accueillir, vous remercier d'être là, vous remercier d'avoir choisi la ville de Bordeaux, la magnifique ville de Bordeaux, puis je veux dire sans chauvinisme aucun, la magnifique ville de Bordeaux, je suis sûr qu'elle va vous inspirer, qu'elle vous a déjà inspiré dans vos réflexions et dans vos travaux. Donc voilà, je suis désolé d'avoir interrompu précisément cet atelier, cette table ronde et ces travaux, donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci de ce que vous faites, merci de ce que vous êtes, merci d'être venu à Bordeaux.
شحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري
يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر
علاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لابطيت علم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك زهري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Donc je laisse la parole à Madame Vitou, donc, qui voulait donner l'exemple de la masse nantaise et sur comment cette industrie a eu un impact sur les différentes migrations dans le contexte nantais.
Oui, bah merci. C'est vrai que sur la question qui nous était posée de savoir comment finalement les migrations façonnent la ville depuis le XXe siècle, on aurait pu dire beaucoup de choses à Nantes et beaucoup de choses ont été dites sur Bordeaux qui peuvent se retrouver à Nantes, y compris avant même le XXe siècle, toute l'histoire négrière de la ville qui se retrouve dans l'histoire, dans l'architecture, dans la toponymie. Donc c'est vrai qu'il y a des grands parallèles à faire avec avec la ville de Bordeaux. Et du coup, moi, j'ai fait un petit saut dans le temps et donc je parle plutôt de ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle en rappelant que effectivement on a parlé des migrations du sud, des migrations internationales et on a aussi des migrations intra-européennes qui sont celles notamment des personnes qui viennent de l'est de l'Europe travailler dans une industrie j'ai envie de vous dire malheureusement célèbre à Nantes qui est l'industrie agricole tournée autour de la production de la mâche. Alors c'est très bon la mâche, mais sachez que elle vient d'entreprises agro-industrielles hein, finalement, qui sont à la fois très destructrices pour l'environnement puisque c'est des industries agricoles qui sont beaucoup basées sur l'utilisation de pesticides, mais aussi de sable, car en fait on fait pousser la mâche dans le sable et donc en fait ça suppose d'avoir des carrières de sable autour de la ville de Nantes, donc avec des extractions qui aujourd'hui ont des impacts extrêmement concret sur nos environnements, y compris sur tout ce qui est nappe phréatique, par exemple. Et puis, au-delà donc de ce que ça a comme impact environnemental, l'industrie de la mâche, bah, effectivement, l'industrie de la mâche, elle fonctionne parce qu'elle utilise une main-d'œuvre très peu chère, mais parce que très peu précarisée, essentiellement basée sur des migrants qui viennent des pays de l'Est et notamment de la Roumanie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que effectivement, aujourd'hui, une partie des paysages, à la fois aux alentours de Nantes, au sens des paysages agricoles, mais aussi les paysages plus urbains, sont façonnés en lien avec cette agriculture, puisque comme on est face, ça a été dit, hein, à des personnes migrantes qui sont dans des statuts extrêmement précaires, et ben on a aussi une précarité de l'emploi qui se répercute sur une précarité de l'habitat et donc la formation de bidonvilles à l'intérieur même de la ville. On parle pas forcément de bidonvilles qui sont sur les bordures ou en périphérie, hein, on parle aussi de bidonvilles qui sont à l'intérieur même du tissu urbain. Donc en cela, ça fait aussi nos paysages urbains. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de personnes à Nantes qui habitent dans des bidonvilles. Ça concerne évidemment des adultes, notamment des hommes qui donc travaillent dans ces industries qui permettent à un certain nombre d'entre nous, certes, de manger de la mâche, mais en fait, la mâche, elle est essentiellement exportée. Hein, c'est pas un produit finalement qui est majoritairement destiné à notre consommation en propre. C'est d'abord et avant tout un marché d'exportation. Et donc ces hommes qui travaillent, bah effectivement, quand ils viennent chez nous, ils viennent et c'est bien heureux avec leur famille. Mais ça suppose aussi qu'on a effectivement des familles qui vivent dans une grande précarité, dans des bidonvilles, et notamment des enfants, avec tout ce que ça a comme répercussions sur leur qualité de vie, leur santé, leur capacité, ou plutôt leur incapacité à suivre une scolarité, puisque je vais rien vous apprendre quand je vous dis que un bidonville, le jour 1, il peut exister, et le jour 2, il se fait expulser. Et le jour 3, il faut retrouver un autre endroit pour reposer ses valises, essayer de se réinventer de briques et de brocs une nouvelle vie. Et puis le jour 4, rebelote, on se fait de nouveau expulser. Donc un des objectifs de la ville de Nantes, c'est de travailler justement à la scolarisation des enfants qui vivent dans ces bidonvilles. Et puis aussi de travailler à la manière dont on peut faire évoluer le statut de ces personnes qui travaillent dans ces entreprises agricoles, puisque en fait, si aujourd'hui ces industries sont florissantes sur le plan économique, c'est bien parce qu'elles utilisent cette main d'œuvre et que donc cette main d'œuvre, on lui doit à minima un accueil décent sur nos territoires, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec par exemple ce qu'on peut retrouver à Calais sur la politique zéro point de fixation. Parfois, c'est un peu aussi ce qu'on peut retrouver dans la manière dont la préfecture se saisit de ces sujets de bidonville sur la ville et la métropole de Nantes, avec des expulsions parfois assez violentes, très destructrices évidemment sur le plan physique de l'habitat des gens, mais aussi très destructrices sur le plan mental pour toutes les personnes qui habitent et qui pour autant font vivre, je le répète, économiquement, notre territoire. Donc voilà, je voulais utiliser cet exemple aussi pour dire que la migration, elle a plein de visages. Effectivement, souvent, quand on parle de migration, on a un peu en tête migration du Sud, on a en tête les vagues migratoires que vous venez de décrire. C'est tout à fait aussi, évidemment, une réalité à Nantes. Moi, je suis adjointe d'un quartier où, effectivement, dans une seule cage d'escalier, vous pouvez avoir 10 nationalités qui cohabitent, des Iraniens, des Égyptiens, des Malgaches, des Algériens et puis des Géorgiens. Donc ça, c'est aussi évidemment une réalité. J'avais aussi envie de vous parler de cette situation parce qu'elle me semble très révélatrice aussi parfois des angles morts un peu, enfin de ces espaces qui, d'un point de vue et politique et géographique, sont un peu délaissés et qui me semblent pour autant être tout à fait illustratifs de la manière dont aujourd'hui les migrants sont mal traités dans notre pays.
Merci beaucoup. Et donc, pour continuer sur cette première thématique, Madame Michalon, vous vouliez présenter l'intervention de l'État dans les milieux ruraux pour les exilés.
Merci. Donc moi, je vais apporter une entrée complémentaire puisque je vais rappeler rapidement comment l'État oriente certaines catégories de population en migration vers certains territoires. Et je parle ici de la politique dite d'accueil des personnes en exil, donc le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés statutaires. Et donc pourquoi ça m'a semblé important de parler de cette prise en charge spécifique, mais d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que l'État français a un rôle aussi dans l'orientation des migrations. On peut se dire que les personnes en migration choisissent elles-mêmes leur lieu de vie, etc. Non, c'est pas toujours le cas. Et les personnes en exil sont, pour celles qui ont la chance de bénéficier d'une prise en charge par l'État français, sont orientées par l'État français sur le territoire national. Alors cette politique, elle a été assez médiatisée depuis une dizaine d'années, mais en fait elle est beaucoup plus ancienne que ce qu'on imagine. En fait c'est une politique qui a été créée en 1975, au moment où l'État français s'est en fait saisi d'une activité que menaient déjà des associations, notamment France Terre d'Asile, qui prenaient en charge l'accueil de réfugiés et qui les hébergeaient. Et en fait c'est à partir de 1975 que l'État s'est saisi de cette prérogative et a cherché à organiser cet hébergement des réfugiés, puis ensuite des demandeurs d'asile, une fois qu'on a fait la distinction entre les deux catégories de personnes, plus tard. Voilà. Et donc cette activité, elle est assez ancienne. Et ce qu'on sait assez peu aussi, c'est qu'en fait, dès le début, les structures d'hébergement ont en partie été localisées dans des territoires ruraux, notamment dans la région lyonnaise. Et en fait, cette organisation, un petit peu en dehors des grandes métropoles, elle a existé dès le début, et elle a été assez médiatisée depuis une dizaine d'années, puisque ce qui se passe depuis 1975 et qui est ressorti ces dernières années, c'est que le dispositif d'hébergement est structurellement déficitaire. Hein. On sait bien qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui devraient pouvoir bénéficier des places d'hébergement qui en bénéficient, donc ce qui veut dire qu'il y en a une moitié qui n'en bénéficie pas, d'où les campements, etc. Et donc ce dispositif est structurellement déficitaire, mais l'État cherche quand même à rattraper tout le temps. Il y a sans arrêt, quand on lit les thèses, quand on lit les rapports sur cette politique, on voit qu'il y a toujours une préoccupation quand même pour développer le dispositif. Même si c'est insuffisant, il y a toujours ce souci de le développer. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a toujours eu une volonté de bien répartir ce dispositif sur le territoire national, avec une logique qui est appelée une logique de péréquation territoriale. Et donc l'idée, c'est que tous les territoires doivent participer à cet hébergement des personnes en exil. Voilà. Et donc cette logique de péréquation territoriale, elle a été accentuée ces dernières années. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais c'est très intéressant à étudier parce qu'il y a vraiment une volonté politique de répartir ces structures d'hébergement, donc les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les centres provisoires d'hébergement et tous les dispositifs qui sont dans le dispositif national d'accueil. Voilà. Et la conséquence de ça, alors je vais pas vous montrer de carte malheureusement, une chose que je peux dire, c'est que c'est très difficile d'avoir des informations sur la localisation de ces structures. Et qu'une chose qui peut paraître simple, comme faire une carte de la localisation des structures d'accueil sur le territoire national, c'est extrêmement compliqué. Donc on a essayé de faire ça avec des collègues parce qu'on est géographe et on aime bien faire des cartes. Et l'accès aux données est quasiment impossible. Quand on a des données, elles sont départementales. Et pour avoir des données communales, c'est extrêmement compliqué. Mais on est arrivé à en avoir sur 3 temporalités et on a pu, en suivant ces temporalités-là, voir que effectivement, ce qui s'est passé au fil du temps, c'est vraiment une augmentation du nombre de structures d'accueil, même si ça reste insuffisant. Donc il y a quand même ce processus de développement du dispositif, quand bien même il reste insuffisant. Et ensuite, vraiment, une dispersion territoriale. On retrouve bien les grandes métropoles comme lieux d'accueil principaux, mais on voit qu'il y a une vraie diffusion sur le territoire, alors dans les régions, dans les départements, mais aussi dans la diversité des territoires. Et ce qu'on voit, c'est que tous les types de territoires sont concernés, aussi bien des espaces périurbains que des villes moyennes, que des petites villes et que des villages. Voilà. Donc aujourd'hui, ce dispositif d'accueil, il concerne l'ensemble du territoire national et tous les types de territoires, urbains, périurbains, grandes villes, petites villes, villages enclavés, villages bien connectés, etc. Voilà. Donc moi, ça me semblait important à souligner, puisque on pourra peut-être en parler après. C'est par ce dispositif que de nombreuses personnes en exil arrivent dans des territoires qui, jusqu'à présent, étaient restés un peu à l'écart des dynamiques migratoires et des dynamiques d'asile. Voilà. Et donc c'est ce dispositif qui, finalement, va amener des personnes en exil dans des territoires où, jusqu'à présent, cette question était assez peu présente. Voilà. Donc là, on voit que l'État peut avoir un rôle significatif dans la géographie des migrations et dans la territorialisation de cette question. Voilà. Juste tant que j'ai le micro, je m'excuse, je devrais partir à 16h30 précise. Donc je suis désolée si c'est pas fini, mais voilà.
Merci beaucoup, Madame Michalon. Et donc, pour conclure cette première partie, monsieur Si, vous vouliez présenter la question des mobilisations des organisations étudiantes de la diaspora, notamment à Bordeaux.
Voilà, moi j'ai fait les propositions d'aborder cette thématique par le prisme des mouvements étudiants qui se sont conciliés à Bordeaux. Il faut savoir que Bordeaux est une ville qui a toujours accueilli des étudiants. Et c'est important de rappeler que la première fédération des étudiants d'Afrique noire de France a été créée à Bordeaux. Et au début, c'est vrai que les étudiants venaient par petits groupes, ils n'étaient pas nombreux. Au fil des ans, ils ont commencé à être de plus en plus nombreux. Et Bordeaux a toujours été une grande ville d'accueil parce qu'il faut rappeler aussi que Bordeaux, tous les grands magistrats d'Afrique aujourd'hui ont été formés à Bordeaux. Et les concours de magistrature, les concours d'agrégation, tout se passait ici à Bordeaux. Petit à petit, ces étudiants qui venaient d'Afrique subsaharienne, mais aussi un peu partout, ont commencé à se structurer, à s'organiser, à créer des associations. Et c'est comme ça qu'ils se sont aussi, petit à petit, se sont appropriés vers des thématiques qui sont aussi en lien avec leur vie ici, à Bordeaux. L'histoire de Bordeaux est étroitement liée aussi à l'Afrique, bien sûr au travers de l'esclavage, dont on va revenir certainement tout à l'heure, mais également à travers la colonisation, etc. Kaffa Diallo était là tout à l'heure, on a eu l'occasion d'en discuter un peu. La particularité de Bordeaux, c'est que dans les années 70, 80 puis 90, il y a eu une fédération qui a été créée, qui s'appelle Africa PAC, et qui a eu le mérite de regrouper des étudiants africains, des étudiants ultramarins, mais aussi des étudiants des îles du Pacifique. Et l'un des credos de cette association-là, c'était de se poser aussi le lien étroit qui existe entre l'histoire de Bordeaux et l'histoire de ces pays-là du Sud. Et c'est comme ça que petit à petit, ces associations-là, en plus bien sûr, d'essayer d'aider les étudiants à mieux vivre, à mieux se loger, à mieux travailler pour joindre debout, à s'approprier aussi des thèmes qui intéressent et qui interpellent aujourd'hui le Bordelais. Et c'est comme ça que l'esclavage, en certain moment, est devenu un thème majeur de militantisme des étudiants bordeaux. Il faut dire que le contexte aussi s'y prêtait. C'était quoi? Parce que l'État français a décidé de célébrer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et cette célébration-là a été l'occasion pour les étudiants aussi d'interroger la ville de Bordeaux sur son histoire. Bordeaux, ça a été très difficile parce que les Bordelais étaient amnésiques de cette histoire, ne voulaient pas en entendre parler. Et donc, il a fallu forcer le pas. Les premières deux choses qui ont été faites, c'est l'organisation de marches au flambeau dans la ville de Bordeaux pour essayer d'interroger les Bordelais et puis surtout de les insister, mais à reconnaître cette part d'histoire qui est aussi de leur responsabilité, en tout cas de la responsabilité de leurs aïeux. Donc ça a été assez mal vécu par les décideurs politiques, par les décideurs économiques, etc., parce que cette histoire-là, jusqu'à présent, elle était enterrée. Personne ne voulait en parler. Donc, comment faire? Mais petit à petit, bon, les associations ont continué à militer, ont continué à marcher. Et le Bordelais aussi, a continué, bien sûr, à un certain moment, à se poser les vraies questions. Bien sûr, certainement, si les étudiants des pays du Sud interrogent Bordeaux sur son histoire, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et la ville s'est appropriée. Ça n'a pas été facile. Ça a été violent même à un certain moment. Il y a eu des écoutes, il y a eu des suivis, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre nous et la police. Mais finalement, à un certain moment, décision a été prise de donner à Bordeaux aussi, de donner en tout cas à l'histoire de l'esclavage que porte Bordeaux une place dans la ville de Bordeaux. Et ça, ça a été une étape assez importante de franchir. Le musée d'Aquitaine a accepté, par exemple, d'ouvrir cette antenne, cette exposition permanente. C'est un pas assez important. Et puis surtout, il y a des associations qui, en partie de là, ont repris aussi le flambeau, comme Diversité, Diversité 1, Diversité 2, puis Mémoire et Partage, qui font un travail assez intéressant, assez remarquable aujourd'hui pour essayer, par exemple, de rappeler à Bordelais cette histoire de mettre des plaques, par exemple, pour expliquer que dans cette rue, en ce moment, il y a un armateur qui habitait là, puis qui s'est enrichi grâce à l'esclavage. C'est des choses qui ont été reconnues, qui ont été acceptées. Et aujourd'hui, on voit un peu partout, il y a des visites guidées pour expliquer aux Bordelais ce qu'aujourd'hui, pourquoi cette rue s'appelle comme ça, etc., etc. Tout ça, c'est des petites choses qui ont façonné d'une certaine manière l'histoire de la ville de Bordeaux. Il y a plus de personnes qui viennent d'ailleurs pour visiter le musée, pour se balader dans Bordeaux et essayer de repérer tous ces endroits-là. Et ça, c'est important de le rappeler. Il faut dire qu'aujourd'hui, Bordeaux continue toujours d'être une ville étudiante. Bordeaux accueille chaque année à peu près 12 000 étudiants. Ça représente 10% de la population étudiante en France. Et les étudiants, malheureusement, ils façonnent aussi, ils vivent à travers l'offre culturelle, l'offre sportive aujourd'hui qu'ils proposent à la ville de Bordeaux, qui permet justement de faciliter le dialogue interculturel entre les peuples. Petit à petit aussi, il faut raconter, les anciens étudiants se sont installés, se sont posés, vivent maintenant à Bordeaux, revendiquent aussi qu'on les écoute. Qu'on les écoute, qu'on les entende, et puis surtout revendiquent aussi leur citoyenneté, que leur citoyenneté soit respectée à part entière. Et ça aussi, c'est un élément fondamental. Aujourd'hui, il y a des quartiers entiers qui sont habités en majorité, c'est vrai que c'est des quartiers périphériques qui sont habités par des personnes issues de migration, et qui aujourd'hui façonnent aussi à leur manière le vivre ensemble dans la ville de Bordeaux, etc., etc. Donc je voulais juste commencer par là. J'ai beaucoup de choses à dire sur le reste, mais je m'arrête là pour le moment.
Merci beaucoup, monsieur Si.
Do dîner, mon copain, ou à do dîner, la reine. les chaises là, ou à vacasser rien. Dodine mon copain, ou à dodine. N'a les chaises là, ou à vacasser rien. C'est nous qui maman poula, c'est nous qu'on doule les esavers, si la leur police is fun. Voler l'obéia, nous papi timi, qui sont gadoyés. Mais c'est sous ton yoshita, y'a todine. Todine mon copain, wa todine. Narra les chaises là, wa va casser rien. Todine mon copain, wa todine. Narra les chaises là, wa va casser rien. Dodine mon copain, wa dodine. Narra les chaises là, wa va casser rien. Dodine mon copain, wa dodine. Narra les chaises là, wa va casser rien.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes.
Et donc ma deuxième question est peut-être un petit peu plus large, mais aussi elle s'adapte à chacune de vos spécialités. Je vous avais demandé de présenter un exemple personnel, selon vos recherches et vos vécus, qui vous semble emblématique de l'histoire des migrations, notamment dans l'espace et dans les territoires. Monsieur Formal.
Oui, on avait prévu en fait de vous montrer un des petits films, enfin des vidéos que leur ami réalise, notamment sous l'impulsion de ces deux animateurs qui sont présents, Emmanuel Dubois et Joanne Hiriart. Ce sont des films c'est un travail avec l'éducation nationale qui permet à des classes de travailler sur une personnalité ou un lieu de l'histoire de l'immigration. Des films qui durent 2 minutes et ça amène les gamins à travailler sur sur l'histoire, sur les archives. Hein. On a un partenariat avec l'INA. Enfin, je le dis parce que c'est une opération qui nous paraît très intéressante, très pertinente en termes de transmission. Et pour la petite histoire, je signale que alors ça fait l'objet d'un concours et les deux fois ça a été gagné par des collèges du Pays Basque. Donc comme on disait que Andaï était présent, je voulais le signaler, surtout que ça a été fait en langue basque. Voilà. Donc bref. Donc on voulait présenter ce film qui parlait du camp de la Teste, hein, des Sénégalais de la Teste. Mais bon, donc on peut pas le faire. Moi, en alternative, j'avais proposé effectivement de vous parler d'une expérience personnelle dans le cadre de mon boulot qui m'avait marqué assez fortement à l'époque, puisque j'avais dans le cadre de non pas d'une inspection mais d'une visite des foyers de travailleurs migrants. Pour les plus anciens d'entre vous, vous avez connu la Sonacotra peut-être, hein, ça s'appelle aujourd'hui Adoma. Bon, donc ce sont des endroits dans lesquels les travailleurs migrants étaient logés. Alors sur Bordeaux, de façon beaucoup moins importante, quand on parle de façonner les villes à Paris autour des foyers, on a des ensembles énormes. On avait et on a toujours, je pense, dans certains endroits. Mais bon, Bordeaux, c'était quelques foyers. Mais donc j'avais visité ce foyer au moment où on avait ce phénomène qui a marqué aussi pas mal les Bordelais, ce phénomène d'arriver à Bordeaux des anciens combattants marocains. Donc dans les années 90, on a vu débarquer, quand on allait à Saint-Michel, on voyait tout un tas de monsieur très âgés, plutôt 75-80, voire plus, avec leur petite poche en plastique là, qui était assis sur les bancs à Saint-Michel, qui papotaient. Alors Dieu merci, un certain nombre de restaurateurs espagnols, portugais, marocains, peu importe, leur offraient le thé régulièrement, et le soir ils rentraient dans les foyers Sonacotra. Et ces gens vivaient dans des chambres que j'ai vues, moi, de 4 mètres carrés et demi, quoi. Voilà, c'est-à-dire, alors, à l'origine, on est sur des chambres de 9 mètres carrés, quel luxe, mais là, ils avaient divisé en deux parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, donc voilà. Donc, on avait ces anciens combattants qui vivaient dans ces conditions-là. Alors, il y avait un petit lit, je pense qu'il y avait une petite fenêtre, je crois, un petit bureau, une tablette, voilà. Je trouvais ça assez croquignolé quand même de se permettre d'accueillir des gens qui finalement avaient participé à la libération de notre pays, puisque on a eu l'occasion ensuite de faire un film sur un de ces anciens combattants. Alors tous ces gens se battaient avec l'appui de structures associatives locales, notamment à l'IF à l'époque, mais Boulevard des Potes également, enfin voilà plusieurs. Et puis les avocats, on avait la maison des étrangers, c'est ça, enfin les avocats spécialisés, Christelle Joutot notamment, etc. Donc ces gens se battaient contre la... Alors ils venaient en France parce que il y avait une faille, je résume, dans la loi RMI qui leur permettait de percevoir le RMI. Mais au-delà de ça, il y avait un combat contre la cristallisation de leur pension, puisque ça avait été décidé à la fin des années 50, le niveau des pensions pour tous les travailleurs, les anciens combattants sénégalais, marocains, etc., le niveau était resté à celui de la fin des années 50, c'est-à-dire que les Français touchaient 500 francs et eux, ils touchaient 20 francs, puisque c'était 20 francs dans les années 50, quoi, hein. Donc il y a eu ce combat contre la cristallisation. C'est à l'époque qu'on avait fait un film, d'ailleurs, sur un de ces anciens combattants, qui s'appelle Mechti, qui a deux films d'ailleurs, deux documentaires, Jean-Claude Chessial à l'époque qui avait fait ça avec nous et qui je pense que ça avait contribué effectivement à sensibiliser un certain nombre de gens et puis on a abouti effectivement jusqu'au film Indigène que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui a permis de médiatiser nationalement. Et au final, l'État français a bien été obligé de faire un geste. Alors, ils se sont débrouillés pour le faire au moment où la majorité de tous ces gens étaient morts, hein, bien sûr. Mais enfin, voilà, ça avait... voilà, ce lieu m'avait marqué parce que je trouve que c'est quand même significatif de la façon dont ce pays, des droits de l'homme, etc., qui se félicite et qui avait demandé à tous ces gens de venir, puisque on leur disait à l'époque, mais vous faites partie de notre pays, donc vous devez le défendre, hein. Donc à l'époque, on a fait venir beaucoup de gens alors plus ou moins forcés, enfin voilà. Et donc là, il s'agit de Marocains, mais parce que Bordeaux s'occupait, il y avait le bureau des Marocains, mais les Sénégalais étaient à Marseille, je crois. Enfin, il y avait selon les villes. Ouais, voilà. Enfin bon, c'est ce dont je voulais voulais parler.
Merci, Monsieur Le Formel. Et donc, Madame Vitou, vous vouliez présenter un événement qui a lieu à Saint-Brévin-les-Pins sur la question de la mise en place d'un cadre.
Oui, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent le nom de cette petite station balnéaire pas très loin de Nantes. Peut-être pas tellement parce que vous y êtes allé à la plage, mais parce qu'effectivement, l'année dernière, Saint-Brévin s'est aussi retrouvé à la une de l'actualité. C'est pas très loin de Nantes, hein, c'est à 40 minutes de voiture, c'est sur la côte. Et effectivement, c'est une commune qui s'est retrouvée un peu embarquée, malgré elle, dans une actualité bien malheureuse, puisque l'État avait décidé, le CADA existait déjà en réalité sur le territoire de la commune, il s'agissait de le déplacer. Et de le déplacer où ? À proximité, tout est relatif, mais enfin, il était plus proche que précédemment, d'une école primaire. Et donc, face à cela, on a ce qui s'appelle un raid de l'extrême droite et d'un certain nombre de groupuscules fascistes qui se sont engouffrés dans cette brèche en faisant les amalgames les plus horribles que vous pouvez imaginer entre migration, immigration et insécurité à l'égard des enfants scolarisés dans cette école. Tout cela a donné lieu effectivement d'abord à une mobilisation des habitants de la commune qui voulaient se démarquer de ces attaques et montrer plutôt leur soutien au projet. Donc il y a tout un monde associatif, local, mais aussi militant un peu plus large à l'échelle du département. On a été un certain nombre d'élus, y compris des parlementaires, dont un est dans la salle, à aller aussi sur place en soutien aux habitants qui se sont mobilisés pour défendre ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile en disant que c'était important justement de pouvoir accueillir des populations migrantes sur la commune. Malheureusement, d'intimidation, on est allé encore plus loin, puisque en fait le maire de la commune s'est fait incendier son domicile dans une nuit, donc alors qu'il était à l'intérieur avec sa famille. Donc on est allé vraiment très très loin dans ce qui s'est passé sur le territoire, et à l'issue de cet événement d'une violence quand même extrême à l'égard des élus de ce territoire, le maire a décidé de démissionner. Donc effectivement, je trouvais ça emblématique aussi de la capacité aujourd'hui d'un certain nombre de courants politiques à s'organiser, car la réalité de nos territoires, c'est que d'un point de vue électoral, l'extrême droite, et c'en est bien heureux, reste assez faible. Malgré tout, on voit sa capacité d'organisation, de mobilisation, sa capacité de violence à l'égard des élus, mais aussi des habitants, des acteurs associatifs qui se mobilisent sur ces sujets migratoires. Donc ça me semble extrêmement symbolique et illustratif de la période dans laquelle on est, aussi d'ouverture des vannes d'un discours raciste, xénophobe, qu'on entend sur un certain nombre de plateaux télé, mais aussi d'un certain nombre d'idées rances, je trouve, qui aujourd'hui contaminent de plus en plus un certain nombre de discours publics, qui peut-être auparavant étaient un peu plus camouflés, et là osent s'exposer au grand jour. Alors c'est pas très réjouissant, je suis désolée, je vous apporte pas une note hyper optimiste, mais c'est aussi ça la réalité de nos territoires, et c'est aussi ça la réalité à laquelle nous aussi, en tant qu'élus locaux, on est confrontés quand on s'engage. Moi, je viens du monde militant. Avant d'être élu, j'étais effectivement d'abord côté militant. Quand on s'engage sur ces sujets-là, vous le savez aussi dans la salle, puisque tout à l'heure, quand on a fait le petit tour de table, savoir qui était acteur associatif, c'était quasiment une majorité d'entre vous qui avaient levé la main. Donc, en fait, on est confrontés aussi à ces discours, à ces haines qui, aujourd'hui, trouvent une résonance médiatique et politiques qui en tout cas moi m'inquiètent particulièrement. Donc c'est pas une note d'optimisme, mais en tout cas c'est une note de gravité aussi pour se dire que soyons fiers de travailler aussi sur ces sujets-là et d'en défendre une autre vision, même s'il faut se battre pied à pied avec des débats d'idées, des débats de fond qui sont parfois assez violents à assumer, mais qui font aussi la grandeur de nos fonctions et de nos engagements.
Merci beaucoup, Madame Vitou, pour ces mots d'engagement aussi, qui, je pense, on rejoint tous ici dans cette salle. Et donc vous, Madame Michalon, ça fait écho à Saint-Brévin-les-Pins. Vous vouliez présenter le plus ancien CADA en campagne en Ariège.
Alors, je ne sais pas si c'est le plus ancien, mais c'est un des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ruraux les plus anciens. Et donc, j'ai choisi cet exemple parce que pour moi, c'était un exemple plutôt positif d'installation de CADA plutôt réussie. Mais je voulais aussi soulever des difficultés que vous devez bien connaître en tant qu'acteur de terrain, mais qui me semblent importantes à rappeler justement pour la bonne prise en charge des personnes au niveau local. Donc moi, je voulais parler du village de Carla-Bail, qui est au Piémont, dans le Piémont ariégeois, donc qui est le village du philosophe Pierre Bail, et qui est un village d'à peu près 800 habitants, donc qui accueille depuis 1998 un CADA de plus de 100 personnes. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile représentent à peu près un huitième de la population, ce qui est beaucoup. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les structures d'hébergement qu'on ouvre sont de petite taille. Elles sont plutôt d'une cinquantaine de places. Et donc là, on a ce village qui est un petit village avec plus de 100 habitants qui sont des demandeurs d'asile. Alors ce centre, il a été ouvert en 98 à l'initiative de la préfecture. Mais le maire, qui malheureusement est décédé l'année dernière et qui a été maire pendant 30 ans, a toujours soutenu la présence du CADA sur le territoire communal. Le CADA était installé là parce qu'il y avait un foyer d'anciens travailleurs qui était disponible. Et ça, c'est une des caractéristiques en fait de l'hébergement des personnes en exil, c'est qu'on les installe aussi dans les territoires où il y a du bâti vacant. des lieux qui sont disponibles et qui sont prêts pour pouvoir ouvrir des structures. Et en fait, c'est le critère premier qui va présider au choix des lieux d'installation. C'est-à-dire que finalement, quand on discute avec les personnes qui choisissent des lieux, ben, au final, ce qui prime, c'est est-ce qu'il y a des locaux qui peuvent accueillir et qui sont disponibles, enfin voilà, qui peuvent être utilisés très rapidement. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que donc c'est un CADA qui est géré par Adoma, et le maire a toujours soutenu la direction, et alors je vais y revenir après, sur des points qui sont essentiels pour la vie de ce CADA. C'est un CADA qui accueille des familles, ce qui explique que ça se passe relativement bien aussi, parce que du coup il y a une grande présence d'enfants, il y a eu une ouverture de classe spécifique pour enfants non francophones, etc. Et il y a pas mal d'habitants qui sont bénévoles et qui aident au CADA, qui organisent des fêtes avec les résidents, etc. Alors ça peut sembler presque idyllique, surtout que le paysage est très très beau et que c'est un très beau village, mais il y a de nombreuses difficultés. Alors évidemment, je ne rentre pas dans les questions administratives, hein, on retombe sur les problématiques classiques de la demande d'asile, etc. Mais moi, je voulais accentuer plus l'aspect territorial. Et donc, quand on rentre dans la dimension territoriale, eh ben, on se rend compte que, oui, installer un CADA dans un village, c'est très bien, parce qu'il y a de la place, c'est calme pour les enfants, c'est bien, etc. Mais quand c'est un village dans lequel il y a zéro commerce et zéro transport en commun, c'est quand même compliqué. Très concrètement, ce qui se passe, c'est que la mairie s'est engagée au niveau des transports, par exemple, pour mettre en place des navettes quotidiennes pour permettre aux résidents du CADA, tout simplement, d'aller faire leurs courses. Voilà, et donc c'est des questions comme ça qui ressortent sans arrêt. Et cette question de la mobilité, en fait, moi, dans tout le travail que j'ai fait, j'ai vu qu'elle revenait sans arrêt, c'est-à-dire que toutes les installations en dehors des grandes villes ou en dehors des villes reviennent sans arrêt à cette question de la mobilité. Voilà, ce qui souligne une question majeure, hein, c'est celle des transports dans les territoires ruraux, qui est une question à laquelle beaucoup de monde se confronte, mais qui prend une ampleur particulière pour les exilés. Et l'autre aspect que je voulais souligner, c'est que donc les personnes qui arrivent là, en fait, ont été orientées par l'État, par le biais de l'OFI. Elles n'ont pas choisi d'aller dans ce CADA. Et donc très souvent, elles disent qu'elles étaient quand même très surprises, voire mécontentes au début, puisqu'elles avaient indiqué vouloir aller dans une ville, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les travailleuses sociales, donc je parle bien de travailleuses sociales, pas de travailleurs sociaux, parce que c'est quand même un milieu qui est quasi exclusivement féminin, les travailleuses sociales, en fait, essayent vraiment de désamorcer cette déception d'être en milieu rural et dans un territoire enclavé, hein, il faut le dire, quand bien même c'est à une heure de Toulouse. Et en fait, elles font vraiment un travail pour essayer de faire voir les bons côtés de la situation aux personnes qui sont dans le CADA. Et ça a des effets, puisque en fait, quand les gens sortent, très souvent, ils restent dans le département. Et ça, c'est un constat que d'autres collègues ont fait dans d'autres départements ruraux. C'est-à-dire qu'il y a des côtés problématiques, des côtés qu'on pourrait presque dire répulsifs, hein, parce que ne pas avoir de moyens de transport, c'est quand même un vrai souci pour tout un tas de choses. Quand on suit les personnes, on voit qu'il y a un recentrage souvent sur les petites villes et sur les villes moyennes où il y aura plus de transport, plus de commerce, mais qu'elle reste quand même dans le département. Et là, c'est le travail d'accompagnement qui incite les personnes à rester, parce qu'elles disent, ben voilà, ici où on est dans un réseau, si vous restez dans le département, on pourra vous aider, on pourra continuer à vous aider. Par contre, si vous partez, on ne pourra plus rien pour vous. Et en fait, ce discours fonctionne. Et beaucoup de gens restent dans le département, même s'ils se recentrent sur les petites villes. Et je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre bien que les territoires sont liés les uns aux autres, et qu'on ne peut pas, en fait, pour résoudre une question aussi compliquée que celle de l'accueil, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un maillage des acteurs, et que ce n'est pas juste une commune qui va pouvoir gérer une situation. Il faut vraiment qu'il y ait un réseau d'acteurs pour arriver à démêler ces situations qui sont complexes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
Merci, Madame Guitte. Madame Michalon. Et enfin, pour conclure, Monsieur Si, vous vouliez vous présenter l'activisme des diasporas vis-à-vis de la récente loi sur l'asile et l'immigration.
Oui, parce que, comme vous le savez, il est de notoriété que les diasporas, en général, ne se mobilisent pas. Souvent, elles sont à retrait. On ne sait pas si elles sont pour ou elles sont contre. Et cette fois-ci, quand il y a eu la proposition de loi asile et immigration, eh bien, on a vu les diasporas se réveiller. se mobiliser et dire ben, on est contre. Voilà, c'est-à-dire comme tout citoyen qui vit dans un pays et qui, à un certain moment, sent que les choses tournent mal pour lui, il se dit non, je ne suis pas d'accord. Et ça a été remarquable pour une fois et ça s'est traduit au niveau du Forum. Le Forum, c'est une organisation qui est à Paris. C'est une fêtière qui regroupe un millier d'associations partout en France et qui a cette particularité de regrouper des organisations ici de diaspora. Donc il y a eu toute une mobilisation d'abord qui est partie de Paris. Il faut savoir que le Forum est représenté aussi dans toutes les régions de France par des COSIM, c'est des collectifs régionaux, donc qui essaient de relayer le débat et puis les actions qui sont portées par le Forum. Donc ici à Bordeaux, ça s'est traduit par une mobilisation assez extraordinaire, notamment au niveau des associations étudiantes. Les associations étudiantes sont, bien sûr, je vois Sandra qui, parce que le temps passe, les associations étudiantes, bien sûr, qui se sont rapprochées des mouvements nationaux de contestation de la loi et puis qui se sont mobilisées sur le terrain, manifestées et dire oui, on est contre cette loi, que signe des tribunes. Et c'était une première qui, c'était la première fois que je vivais ça. Et on a mis à disposition nos locaux pour qu'ils viennent faire leur banderole, les plaquettes et tout ça, aller manifester, crier oui, on est contre la loi, parce que cette loi scélérate vraiment, qui heureusement, même si effectivement elle a été abrogée en grande partie, reste quand même une loi assez dangereuse, et méritait peut-être la mobilisation de tout le monde, et ça je tiens à le dire, et puis surtout à dire voilà, que c'est que les diasporas, comme toutes les associations qui se sont mobilisées, sont une fois dans le même camp, décidées de dire non, on est contre ce qui se passe et nous voulons, en tant que citoyens qui vivent dans ce pays-là, eh bien, une loi qui soit peut-être plus juste par rapport à ce que nous pouvons ici. C'est, je ne vais pas être long, donc je m'arrête là. Et j'espère que ça en appelle d'autres mobilisations sur d'autres questions qui sont posées, parce que malheureusement, elles sont nombreuses, et notamment sur les conditions de vie d'étudiants qui vivent dans une précarité assez innommable, qui rencontrent beaucoup de difficultés avec les préfectures pour le renouvellement du titre de séjour, etc., etc. Et tout ça, ça mérite effectivement la mobilisation et l'attention de tout le monde. Merci.
Merci, monsieur Sou.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Donc, merci beaucoup, monsieur Le Formal, madame Vitou et madame Michalon et monsieur Sy pour ce premier temps. Et là, je peux laisser le micro au public si vous avez des questions pour les intervenants.
Oui. Moi, j'ai une question pour Bénédicte Michalon à propos du cas dans l'Ariège. Je voulais savoir ce que deviennent les demandeurs d'asile qui sont déboutés à la sortie du CADA, parce qu'ils sont tenus de quitter le CADA à la fin de... une fois que la procédure a échoué. Voilà.
C'est très intéressant parce que, alors je vais vous faire une réponse en deux temps. Donc évidemment, il y a un taux d'accord de l'asile qui est faible, hein, donc il y a beaucoup de personnes qui sont déboutées. Et en fait, c'est là que le discours des travailleuses sociales et l'implication du maire précédent, en fait, ont joué. C'est que les travailleuses sociales sortent un peu de leurs prérogatives pour mettre en contact les personnes avec des collectifs de bénévoles, de militants locaux. Alors qu'elles n'ont pas forcément à le faire, mais elles le font. Et le maire lui-même recherchait des solutions d'hébergement, notamment pour des familles. Alors je ne sais pas ce qu'il en est avec la personne qui l'a remplacée, mais donc il y avait quand même une volonté de ne pas laisser les personnes tomber complètement. Et c'est là que justement cette histoire de connexion avec les acteurs départementaux est vraiment importante, parce que évidemment les travailleuses sociales, elles connaissent les institutions, elles connaissent les réseaux militants, et donc elles peuvent activer différents leviers. Et l'autre réponse que je voulais faire, c'est que là j'anticipe un peu sur la dernière thématique, mais que j'aurai pas le temps de traiter parce que je dois partir, c'est que en fait les bénévoles sont une population également très intéressante à observer, parce que ce sont pour la plupart eux-mêmes des migrants. Donc soit ce qu'on appelle des néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui ont quitté la ville pour venir se lancer dans le maraîchage ou autre, puisque l'Ariège est quand même un haut lieu pour les néo-ruraux, Et donc il y a des Français, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers, notamment du nord de l'Europe, qui viennent s'installer là pour changer de vie. Il y a beaucoup de retraités étrangers. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait ce CADA est un lieu de rencontre de migrations complètement différentes les unes des autres et qui dans d'autres espaces ne se rencontreraient pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment intéressant parce que y a cette espèce de cristallisation comme ça de migrations très différentes les unes des autres autour du CADA. Et puis ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que comme c'est un territoire rural, évidemment il y a la difficulté de l'emploi après. Je finis ma réponse sur les bénévoles. En fait, les bénévoles, là, ils vont jouer aussi sur les spécificités du territoire pour aider les déboutés. Et certains, en fait, sont hébergés dans des communes vraiment les plus isolées possibles. Il y a une sorte d'invisibilisation, on va dire, recherchée, pour préserver les personnes qui sont déboutées. Voilà. Et puis, y a la question de l'accès à l'emploi, hein, qui va toucher à la fois les personnes qui ont des statuts et puis celles qui en ont pas. Et là, il y a eu des tentatives intéressantes de faire travailler des exilés dans l'agriculture, mais ça n'a pas forcément marché parce que ça correspond pas forcément aux souhaits de ces personnes. Et donc, c'est aussi une des questions majeures dans ces territoires, quoi, de l'accès à l'emploi. De l'accès à l'emploi. Voilà.
D'autres questions? Alors, si pas d'autres questions, moi, j'en poserai bien une. En fait, on a eu un panorama un peu historique et dans plusieurs thématiques de la question des migrations et de la mémoire autour de ces questions. Du coup, sur une perspective un peu comme ça de vision un peu historique, on a pu aborder à la fois du siècle précédent, mais aussi des 20-30 dernières années. Est-ce que vous notez, chacun dans votre champ, on va dire, une modification de la perception des personnes migrantes en sein des territoires dans lesquels vous intervenez?
Non, je vais pas répondre totalement, mais enfin, ça me fait penser sur les perceptions aujourd'hui dont parlait Marie Vito tout à l'heure très bien. Quand on lit les textes, par exemple, sur les Espagnols ou les Italiens dans les années 20-30, on retrouve des choses qu'on retrouve aujourd'hui vis-à-vis des migrants du Sud, pour le dire de façon globale comme ça, hein, c'est-à-dire ils sont totalement inassimilables, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on a eu une espèce de permanence, quoi. Bon. Après, au-delà de ça, moi, on a vraiment un paradoxe dans ce pays parce qu'on voit bien qu'on a quand même tout un tas de gens qui ont une France qui est de fait multiculturelle. Hein, je suis désolé, mais enfin, on est près de 50% dans ce pays à être tous issus des immigrations. On pourrait dire qu'on est même 100% si on prend la notion de migrant. Moi, je suis né à Nantes, je suis venu à Bordeaux hein, pour relever le niveau. Mais non, je plaisante. Mais on est tous migrants. Hein, et donc, il y a quand même ce paradoxe d'une France qui est sinon accueillante, encore que Bénédicte Michalon vient de nous parler de sites, et on en a dans la région, notamment en rural, mais pas seulement, des sites accueillants. Et puis, en même temps, ce paradoxe d'avoir ce discours très, très dur. Et c'est comme si ces deux versants se répondaient, quoi. C'est-à-dire que plus on accueille, plus on accepte, plus se durcissent les discours et les pratiques. Parce que, bon, soyons clairs, les pratiques discriminatoires à l'égard des migrants, notamment quand ils n'ont pas la même couleur de peau, notamment quand ils viennent du Maghreb, etc. Ces pratiques-là, elles sont quand même très très fortes. Et les politiques publiques de l'État là-dessus, depuis une vingtaine d'années, elles pataugent un peu dans la semoule, si je puis dire, d'ailleurs. On reste quand même un peu au bord du guet là-dessus. Mais enfin, il n'empêche quoi. Hein, on a ces deux versants, et ce qui fait peur aujourd'hui, enfin, on a vraiment l'impression, effectivement, moi, j'entendais ce que disait Marie Vitou tout à l'heure, quoi. On a l'impression, quand on regarde l'Europe essentiellement aussi, hein, je regarde la Hollande, je regarde l'Italie, je regarde, voilà, enfin ça fait peur, quoi, que le versant c'est pas seulement du racisme, ça va plus loin, je pense, que ce versant xénophobe, que cette Europe un peu forteresse là, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Hein. Je vous rappelle que on vit dans un espace aux portes duquel les gens se noient pour venir, hein. Que ce soit en Méditerranée, la Bidassoa, voilà, enfin, il y a eu des... Bref, on se comporte comme une forteresse, quoi, hein, et ces derniers temps, on a le sentiment que, voilà, on a fermé les grilles, on a levé les ponts-levis, sauf pour Ryanair, hein, parce que nous, on continue à aller un peu partout, parce que nous, on n'est pas des migrants, on est des touristes ou des expatriés. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, ça fait un peu peur, quoi. Hein, et je pense, alors, je sais pas, il n'y a pas forcément de solution. Nous, on fait l'hypothèse de notre petite place, on dit, regardez l'histoire, ça contribue à prévenir tout ça. Regardez, on parlait tout à l'heure de Bordeaux qui a regardé peu ou prou, pas encore assez peut-être, mais enfin, son passé négrier, bon, il y a quand même des choses à revoir sur le passé colonial. Bordeaux, c'est une ville coloniale par essence, hein, là. Je veux dire, on a eu des foires internationales où on a montré de l'exotisme, etc. On a santé navale, enfin bon, plein de choses. Donc il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Nous, on essaye d'y contribuer, mais enfin bon, des fois, ça fait peur, quoi. Ouais.
Oui, peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, je rejoins assez, effectivement, en fonction de l'histoire, les migrants précédents deviennent des bons migrants, ou en tout cas meilleurs que ceux de la vague qui les suit. Et puis on a... Toute cette logique à l'œuvre entre les migrants, on va dire, les migrations du Sud, qui sont vues comme étant une sorte d'envahissement, ce qui n'empêche pas que, effectivement, une partie des migrations s'appelle de l'expatriation. Et en fait, les expatriations, ça représente aussi des milliers de personnes, et qui cherchent d'ailleurs pas forcément à s'intégrer dans les pays dans lesquels elles arrivent, parce qu'il me semble pas que tous les expatriés qui habitent à Shanghai parlent chinois, que tous ceux qui habitent à Lima parlent parfaitement l'espagnol quand ils viennent de France, en tout cas. Donc, effectivement, on a là des regards très divers sur les migrations. Et puis, si on regarde un peu l'actualité, on est en train de nous expliquer que Aya Nakamura n'est pas capable de chanter pour les Jeux Olympiques. Bah, alors, on est typiquement dans le discours hyper raciste qui nous explique que, c'est pas possible que ça soit une personne racisée qui représente la France dans un événement international et qui voudrait mieux que ça soit Lara Fabian. Mais Lara Fabian, elle est canadienne. Donc, en fait, il y a les bons... Il y a les bonnes migrations qui viennent du Canada, et puis il y a les mauvaises migrations, mais Aya Nakamura, elle est française, elle est née sur le sol français. Enfin, voilà. Donc, en fait, on est toujours dans ces images, dans ces représentations qu'il faut combattre. Là où je trouve qu'on peut avoir des différences, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des entreprises politiques et médiatiques assumées de manière très forte dans l'espace public d'avoir un discours stigmatisant à l'égard des personnes migrantes, mais de manière plus générale, à l'égard des personnes racisées. Et la plupart des personnes racisées de ce pays ne sont pas des personnes migrantes, certes issues de migration, mais elles sont avant tout françaises, en fait. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. J'emploie le mot entreprise à dessein. C'est vraiment une entreprise médiatique et politique à laquelle, là, on doit faire face. C'est très compliqué parce qu'en fait, on lutte pas avec les mêmes moyens. Si je prends l'exemple d'une collectivité locale comme Nantes, effectivement, on lutte d'un point de vue politique. Comment on s'oppose typiquement à la loi asile et immigration en tant qu'élu local? Comment on propose des projets qui soient positifs? Comment, par exemple, je suis adjointe d'un quartier où je suis en train de récupérer un parking qui était un délaissé urbain, et comment on va y implanter une résidence sociale précisément pour accueillir des demandeurs d'asile et des exilés titrés. Donc comment on arrive à notre échelon à proposer des projets, à proposer une autre vision des migrations? Pour autant, on est confronté à une grande machine qui parfois nous dépasse et nous submerge un peu dans les orientations et les projets politiques qu'elle propose. Donc c'est en ça que je disais tout à l'heure, on a besoin aussi de ce tissu militant, habitant, associatif que vous représentez. Et en fait, c'est parce qu'on arrive les uns, les unes et les autres à à construire collectivement un autre récit sur ces migrations-là qu'on arrivera à combattre les idées qui aujourd'hui prennent de plus en plus de place dans la société.
Mais moi qui, est, bon, qui suis français d'origine étrangère, franchement, voilà, j'ai une perception d'incompréhension en fait. Je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces Français-là? Qu'est-ce que nous voulons? Parce que quand on regarde les chiffres en face, des mouvements migratoires, des gens qui viennent s'installer en France et tout ça, on se rend compte quand même. Et l'envahissement, il est loin d'être le cas. Pourquoi les migrants font si peur aux Français? Alors qu'il y a de la place, on les a toujours dit, la France, c'est le pays d'accueil par excellence en Europe, le pays culture d'excellence, le pays de la solidarité, de la fraternité, etc. Et puis quand on vient ici, excusez-moi, j'ai du mal à parler, parce que je parle avec les mains, donc c'est pour ça que... Et on a du mal à comprendre bon, tout ce mouvement de stigmatisation. Mais surtout tout ce mouvement qui fait écho aujourd'hui à la population française. Quoi. Et donc nous, notre positionnement, c'est d'essayer justement de voir comment on peut faire à notre niveau pour essayer de décortiquer, de comprendre ce qui se passe et puis nous-mêmes peut-être aller en face des Français leur expliquer ce qui se passe. Les migrants qui viennent ici, la plupart du temps, ce sont des migrants qui sont soit des étudiants, soit des gens qui sont en regroupement familial, soit et très peu de migrants qui viennent vraiment pour vivre de l'aide sociale, comme on essaie de nous faire comprendre. Et donc, moi, je pense que la responsabilité, bien sûr, elle est partagée. Bon, elle est partagée d'abord, puisqu'on a plusieurs élus ici, et qu'on est au sein d'une association de collectivités. Au niveau politique, aujourd'hui, la question migratoire est devenue, c'est vrai, un thème d'instrumentalisation assez facile. Tout le monde se l'approprie et puis tout le monde... Et ce qui me gêne et ce qui me frustre, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce débat-là est devenu un enjeu national majeur alors qu'il ne représente pas grand-chose auprès de l'opinion publique. Alors comment aujourd'hui... Le débat public, politique, aujourd'hui, est devenu, si la question migratoire, on en joue, parce qu'on est instrumentalisé, parce qu'on accepte aussi cette instrumentalisation, et puis parce qu'en face, on n'arrive pas à trouver peut-être les arguments nécessaires pour opposer aux extrémismes de droite les discours qu'ils essaient de porter auprès des populations. Il faut peut-être qu'on arrive, bon, je suis un peu... M'excuser, je suis peut-être un peu radical dans mon positionnement. Il faut peut-être qu'on essaye tout simplement, à un certain moment, de rester zen par rapport à cette question-là. Et puis peut-être d'essayer de trouver d'autres approches pour contrer le mouvement national. Je pense qu'il faut être frontal, bien sûr. Mais dans le discours qu'il y a apporté, je pense qu'il y a aussi beaucoup de franchises qu'il faut essayer de mettre en avant. Quoi. Mais malheureusement, aujourd'hui, bon, parce que c'est vrai, il y a les élections, il y a des enjeux électoraux qui sont très importants, etc., etc. Bon, on se laisse entraîner dans un débat qui n'a pas lieu d'être, et puis surtout contre lequel, moi, je pense, parce que je pense qu'on peut trouver des contre-arguments pour expliquer à la population française, surtout le milieu rural, les milieux qui vivent dans les quartiers périphériques, que le problème qui est posé tel qu'il est posé aujourd'hui, c'est vraiment pas l'enjeu. L'enjeu, il est ailleurs. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver cette porte d'entrée-là. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse. Et je pense qu'on peut le faire aussi en travaillant beaucoup plus avec les personnes qui sont issues des migrations, qui comprennent beaucoup plus aujourd'hui les stigmatisations dont ils vivent, et puis surtout qui sont peut-être capables, à mon avis, de proposer des discours qui peuvent contredire aujourd'hui ce qui est avancé par le Front National, et puis surtout de l'Assemblée nationale, et puis surtout peut-être de trouver de dénouer les cordes qui aujourd'hui on n'arrive pas à dénouer parce qu'on aborde à peu près dans le même sens, mais en restant agressif et tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas être resté agressif, il faut trouver des portes d'entrée différentes pour essayer de contrer ce qui se passe. Au niveau du forum, on a une campagne qu'on appelle une campagne d'image qui essaye aujourd'hui de décrypter tous les clichés sur lesquels on essaie de mettre les migrants. C'est des campagnes que nous, on est prêts à mettre à, à, à la disposition aussi des collectivités, hein, parce qu'il peut permettre aussi de faire comprendre à la population, voilà, les enjeux qui sont posés par les questions migratoires et puis surtout l'apport de l'immigration dans les pays de l'UE, que ce soit nous les travailleurs, que ce soit les étudiants, si on regarde économiquement l'apport, on se rend compte, voilà, que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas vrai, les migrants apportent beaucoup plus de financièrement, je veux dire, hein, parce qu'ils payent des cotisations, parce qu'ils participent, etc., dans les pays de résidence, que contrairement à ce qui est annoncé, par exemple, par le Front National. Donc, il y a vraiment deux choses à dire. Nous sommes prêts à y contribuer. Nous sommes disponibles. Et moi, je ne désespère pas. Je dis, il n'y a pas de raison que même si c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte est très inquiétant, mais il n'y a pas de raison que ça change. Mais pour que ça ne change pas, voilà, il faut que nous tous, on s'y mette. Et ensemble, je suis sûr qu'on va rester, en tout cas, garder la France, le pays de fraternité et d'accueil tel qu'il a toujours été.
Alors, le temps tourne malheureusement, donc on va prendre une dernière question qui avait été demandée ici. Désolé, mais il y aura une deuxième table ronde, donc il y aura l'occasion de prendre la parole ensuite.
Merci donc de pouvoir prendre la parole maintenant, rapidement donc. D'abord pour remercier les organisateurs de ce colloque, enfin de ce travail de réflexion, parce que ça fait du bien quand même d'entendre ce qu'on a entendu cet après-midi entre nous par rapport à la situation dans laquelle on est par ailleurs plongé, avec en particulier les nouvelles lois Darmanin qui vont pas arranger les choses. Donc pour aller vite, donc je suis membre d'une association qui s'appelle Pourquoi pas. Et donc on a déjà travaillé sur un certain nombre de sujets. Par exemple, on a un peu fait connaître la présence du clown chocolat sur Bordeaux et sa vie. On vient de finir un travail aussi avec un théâtre sur la question de la présence de Flora Tristan. On a travaillé, je vais très vite, pour faire un colloque sur les gilets jaunes avec un ouvrage qui a suivi. Et donc là, notre projet, j'en arrive donc à notre projet pour ce nouveau projet, c'est d'essayer de travailler sur un sujet qui est celui des femmes migrantes, c'est-à-dire qu'on a volontairement choisi de ne pas partir de la situation générale des immigrés ou d'immigrants hommes et femmes, mais de centrer sur notre projet, c'est d'essayer donc de travailler sur recueillir à la fois des témoignages, si on peut le faire. C'est un enjeu dont on va essayer de réaliser, recueillir des témoignages sur ce qu'ont vécu ces femmes, la même chose que les hommes, mais peut-être des violences différentes, travailler avec des universitaires et des chercheurs pour redonner un sens général. Et donc nous avons commencé à travailler avec des associations qui sont sur le terrain, en particulier avec Rami, avec qui on a parlé. Donc, et nous sommes à la recherche de ces contacts avec des associations de terrain pour pouvoir mener à bien notre colloque. C'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole pour présenter notre projet. Voilà. Mais je vous remercie encore de ce travail de réflexion, ça fait du bien.
Bien. Je vous propose du coup qu'on passe à une petite pause, le temps qu'on installe la deuxième table ronde, et on remercie bien sûr nos intervenants ainsi que la modératrice.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous des coloniales sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez en podcast.